22h et le lundi à 21h.
Au quotidien, avec Hélène Denis.
Bonjour, il pleut ce matin, 18 juin 2026, j'espère que vous allez bien en ce jeudi. Mathieu, ça va?
Oui, je repensais à l'expression « il pleut à boire debout », sauf il faut qu'il pleuve à l'horizontale, si je comprends bien.
Oui, c'est Monique qui a dit ça, mais c'est vrai qu'on l'entend souvent. Monique, il pleut à boire debout chez vous dans les cantons de l'Est.
Oui, exactement. Je nous imagine là debout, la tête renversée, et puis à absorber ce qui tombe là. Oui, on pourrait boire à l'heure actuelle.
Oui. Est-ce que vous boiriez la pluie qui tombe chez vous?
Peut-être pas.
Plus que celle de Montréal, en tout cas, certainement.
Ah ben là, je sais pas. Écoute.
Ouais, il faudrait faire des tests.
Oui, exactement.
Alors, Monique, vu que vous avez pris la parole, on vous avait invité à le faire, d'ailleurs. Présentez-nous votre sujet d'aujourd'hui. Vous allez parler d'allergies. J'imagine qu'aujourd'hui, là, pour ceux et celles qui ont des allergies à cause de ce qui tombe, là, les petites mousses, ils sont en pause, là.
J'imagine que ça doit ralentir un peu. Oui, c'est une bonne saison
oui, hein?
L'été pour les allergies, tous les pollens des arbres qui bourgeonnent, etc. On le voit d'ailleurs sur nos tables. Je ne sais pas si vous avez ça chez vous, là, mais une espèce de petite poussière jaune, là, c'est
ah oui.
Assez...
Mais
oui, oui, oui.
J'ai vu, la semaine passée, c'était comme une tempête, c'était blanc. Ça,
ah,
ça
oui.
Tombait, je pense, des ormes.
Ah oui,
et,
oui, oui.
Il y en avait.
Alors, il semblerait, Hélène, que, en effet, les allergies saisonnières ou alimentaires, ben, ça fait rage.
Oui, hein?
Ça occupe le 4e rang dans le monde après le cancer, les pathologies cardiovasculaires et le sida, selon l'Organisation mondiale de la santé. On parle même de pandémie. Il y a plus de 50% d'augmentation de personnes allergiques depuis les années 1990 et 30% de la population mondiale compose avec cette réalité. Alors, que nous disent les recherches sur la question? Ben, c'est l'article d'Éloise Rambert dans la revue Epsilon qui va nous révéler ce que les recherches ont comme hypothèse.
C'est super ça, Monique. On va vous entendre autour de 10h03. Et Yvan est au bout du fil, tout sage. Bonjour, Yvan.
Oui, bonjour.
Bonjour. Bonjour, là, bonjour.
Normalement, je ris plus, c'est ça.
Et là, on est en train de vous perdre. Là. Je ne sais pas si vous êtes dans un tunnel ou quoi.
Non.
Non? OK.
Non, je suis au bout de mon cellulaire, là, puis je suis pas en main libre. Là, fait que,
bon, là, ça va bien. Vous allez nous parler de... Oui, vous allez nous parler de sport universitaire, entre autres.
Entre autres, oui. En fait, je vous parle de deux événements de sport hors de l'ordinaire, hors de ce qu'on lit normalement dans les journaux ou de ce qu'on voit à la télévision. Le premier événement, c'est un événement de reconnaissance. C'est lors de la soirée de financement du Vert et Or de l'Université de Sherbrooke en avril dernier. On a offert une bourse à l'athlète étudiant ou étudiante LGBTQ+, de l'année. C'était la première fois que ça se passait. Et je vous raconte un peu qu'est-ce qui a suscité cet événement-là. Et d'autre part, à Laval, la semaine dernière, il y a eu des matchs de soccer silencieux.
Oui.
C'est des matchs de soccer où les parents n'ont pas le droit d'applaudir, les coachs n'ont pas le droit de donner des directives pendant le match. On laisse les jeunes jouer. Alors ça aussi, je vous raconte ça.
Super aussi. Merci beaucoup, Yvan. Et qu'est-ce que je voulais aussi vous dire? Il y a Mathieu Tessier aujourd'hui qui va se transformer en chroniqueur culturel, en critique culturelle. Lui qui a vu un film, c'est un documentaire qui s'intitule « Le chant des forêts » de Vincent Munier. Est-ce que sur 10, vous pouvez nous donner un aperçu, un chiffre?
Un bon 8.
Un bon 8?
Ah oui.
Bon, alors on va vous entendre autour de 10h33 pour ce qui concerne cette chronique culturelle. On aime ça quand Mathieu nous parle de ce qu'il a vu. C'est toujours intéressant. Et aussi, le CAMAC, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un centre musical qui propose 8 semaines de camp musical dans les Laurentides et une série de concerts du dimanche qui réunissent des artistes de grand talent. Nous en parlerons avec Guylaine Lemaire, directrice artistique de CAMAC. Et pour commencer, nous allons ouvrir avec un chanteur qui fait partie de nos vies depuis toujours. Il a 84 ans aujourd'hui. Il s'appelle Paul McCartney et on l'écoute dans un extrait de son album qu'il lançait le 29 mai dernier.
Father was a salesman. My mother was a saint. Working every God-given minute to make enough to pay the rent. The war was nearly over. The peace would soon begin. Living on the edge of the city when the roads were going in. They couldn't take anymore, but they had to. They couldn't take anymore, but they had to. Entertainment, a piano and a radio, hot tea and cigarettes was enough to keep them on the go. Another generation yearning to be free, learning how to keep it together, family. They couldn't take any more, but they had to. They couldn't take any more, but they had to. Carry on, carry on.
Paul McCartney et sa chanson « Salesman Saint ».
Bonne fête, Sir Paul McCartney. Happy birthday. Ça fait partie de son album tout récent qui s'intitule « The Boys of Dungeon Lane ». Nouvel album qui est une sorte de voyage explorant ses jeunes années à Liverpool. Ici, il nous parlait de ses parents. À la une du journal de Montréal, troublante page, il a frôlé la mort. On parle ici de Normand Brathwaite, qui a accordé 2 entrevues. Une à Dominique Tardif dans La Presse et une autre à Sophie Durocher dans le journal de Montréal. Normand Brathwaite est transparent. S'il a failli perdre la vie, c'est à cause de son problème d'alcoolisme. Il est catégorique. « Je ne boirai plus jamais de ma vie ». L'animateur Normand Brathwaite a frôlé la mort en avril et a été hospitalisé 42 jours. Dans l'ambulance qui le transportait à l'hôpital, il était cliniquement mort, mais a été ramené à la vie. Craignant pour sa survie, les médecins ont demandé à son épouse, ses deux enfants et sa belle-fille de lui faire leurs derniers adieux. Souffrant d'acidocétose diabétique avec insuffisance rénale aiguë, une complication grave causée par un manque important d'insuline, dans un contexte de troubles liés à l'usage de l'alcool, il a même passé deux semaines dans le coma. C'est un survivant que j'ai rencontré hier, écrit Sophie Durocher, dans un café de Verdun. « Je ne suis pas mort et je n'ai pas l'intention de mourir », m'a confié l'animateur de Belle et Bomme, manifestement ébranlé deux mois après les événements. « J'ai encore des étourdissements, des engourdissements temporaires. Il a perdu 15 livres. Il a dû réapprendre à marcher et à parler normalement. Toute cette épreuve a commencé le 14 avril. » L'animateur traverse une période de dépression, une autre. Sur un coup de tête, il décide de cesser la prise de ses médicaments pour le diabète qu'il prend depuis 50 ans. La réaction est presque immédiate. Dans l'auto qui le ramène de la Gaspésie vers Montréal, il s'arrête constamment pour vomir. Arrivé chez lui, il s'écroule inconscient au pied du lit. Son épouse Marie-Claude Tétrault appelle le 911. On l'amène d'abord à l'hôpital de Granby, mais devant la gravité de sa situation, on décide de le transférer au CHU Fleurimont de Sherbrooke. Dans l'ambulance, on prévient son épouse, « Dites-lui au revoir maintenant, car on ne sait pas s'il va toffer la ride. » Il a été dans le coma pendant deux semaines, victime d'hallucinations sévères. Il a vécu des situations troublantes. C'est comme si j'étais dans un roman de H.P. Lovecraft, auteur de romans fantastiques. J'évoluais dans un autre monde. Il ne veut pas rentrer dans les détails, car c'est trop douloureux. L'animateur a pu compter sur la présence constante de sa femme Marie-Claude Tétrault, sa conjointe des 35 dernières années. Elle a été avec moi chaque seconde de chaque heure. Sa belle-fille, infirmière Mylène, et son mari Yannick ont aussi été présents à ses côtés, ainsi que ses enfants Édouard et Élisabeth. Il ne tarit pas d'éloges pour le personnel médical, paramédical et infirmier et pour les préposés aux bénéficiaires. Je vais retourner les voir, mais là, je ne peux pas, a dit Normand Brathwaite, les larmes aux yeux. Il a hâte en janvier pour recommencer à animer Belle et Bomme à Télé-Québec, mais d'ici là, c'est le repos le plus complet. Il affirme qu'il va même encore mieux qu'avant, moins déprimé, plus concentré. La vie est plus belle quand on est sobre, affirme-t-il. Alors, c'est vraiment un témoignage qui bouleverse, mais qui en même temps donne de l'espoir. À la une de la Presse Plus, comme je vous le disais, Normand Brathwaite se confie à un autre journaliste. Cette fois, c'est Dominique Tardif. Normand Brathwaite a failli mourir. Aussi, un autre titre qui prend une bonne place de la une de la presse. Installation de défibrillateur. Québec exhorté à presser le pas. Un an après la mort par arrêt cardiaque d'un résident d'une ressource intermédiaire dépourvue de défibrillateur externe automatisé, une coroner appelle le gouvernement à faire en sorte que les établissements qui hébergent une clientèle à risque se dotent de tels appareils. Aussi, on s'en va à Boucherville, 103 tonnes de béton rejetées dans un égout, montré du doigt, béton provincial, et poursuivi pour près de 400 000 $. Et Philippe Mercure, dans la section Dialogue, s'interroge à propos des voitures électriques. À quand un retour de l'ambition? Et aussi, à la une du Devoir, Carney repart du G7 sans un tête-à-tête avec Trump. Le premier ministre canadien assure qu'ils ont toutefois pu discuter de relations commerciales, d'IA et de la guerre en Ukraine. Et une très belle photo de Céline Galipeau. Jour J pour le TJ, Céline Galipeau part à Zeb. Voldegorgis arrive, mais la forme du célèbre rendez-vous de fin de soirée ne changera pas, malgré ses signes de déclin. Alors, bon dernier bulletin ce soir à Céline Galipeau, que l'on retrouvera dans une formule hebdomadaire dans laquelle elle traitera d'informations internationales. Et cette émission devrait commencer autour de novembre 2026.
La nuit dans toutes les villes, J'aurais appris le nom des fleuves tranquilles. J'aurais embouteillé la lumière de l'eau, le silence des cimetières, le cri des faux. Je serais conquistador de bêtes féroces. J'aurais ouvert les portes du bestiaire.
Je serai grande, une chanson d'Ariane Roy.
Une nouvelle de dernière heure. Le député de Papineau et ministre de la Culture et des Communications, Mathieu Lacombe, tirant un trait sur la vie politique provinciale après deux mandats consécutifs. Il s'agit du deuxième ministre du gouvernement Fréchette à annoncer son départ en 24 heures. Hier, c'était M. Boulay. L'élu de la Coalition Avenir Québec, selon ce qu'a pu faire confirmer le droit, annoncera jeudi matin, donc ce matin, qu'il jette l'éponge et ne briguera les suffrages de nouveau lors de la campagne électorale qui s'amorcera à la fin août. Le ministre a convoqué les médias à 10h30 dans le secteur Buckingham à Gatineau pour faire le point sur son avenir politique. C'est un article de Daniel Leblanc dans Le Droit. Yvan Deslauriers, c'est à vous.
Oui. Alors, aujourd'hui, je vous présente deux événements sportifs qui sortent un peu des événements comme on les connaît. Ça commence par une soirée de financement pour le verre et or de l'Université de Sherbrooke. C'est un article de Samuel Larochelle dans la presse du 9 juin. Ça s'intitule « Le verre et or célèbre les athlètes LGBTQ+ ». Lors de la soirée de financement du verre et or de l'Université de Sherbrooke le 9 avril dernier, la foule s'est levée spontanément pour célébrer Maud Tanguay, la joueuse de rugby. La joueuse de rugby est ainsi devenue la première lauréate de la bourse de l'athlète étudiant ou étudiante LGBTQ+ de l'année. Cette distinction lui a été remise par le peintre et ancien membre de l'équipe nationale d'athlétisme, Marc Sanson. Il dit « C'était magique. La salle était pleine d'athlètes de toutes les équipes qui ont vu Maud être célébrée. Ça leur envoyait un message très positif. » Marc Sanson, c'est maintenant un philanthrope et il nous parlait avec beaucoup d'émotion de cette remise de prix-là. Habituellement nerveuse devant public, l'athlète a été surprise par ce qu'elle a vécu ce soir-là. Je me sentais vraiment bien finalement. C'était beau de voir que j'étais soutenue par tout le monde, surtout après avoir vu certains commentaires négatifs et homophobes quand la bourse a été annoncée. En effet, après avoir révélé la création de la bourse sur les réseaux sociaux le 25 mars dernier, l'équipe des communications du Vert et Or avait été forcée d'intervenir en publiant ce message. Les commentaires transphobes et homophobes sous cette publication seront inacceptables et nous sommes conscients qu'ils ont pu blesser les membres de notre communauté. C'est pourquoi nous avons restreint les commentaires. La bourse, c'est une idée de Marc Sanson qui a porté les couleurs du Vert et Or de 1985 à 1989. Il dit « Il y a 40 ans, il n'y avait aucun athlète ouvertement gay. Je n'avais pas de modèle. Aujourd'hui, c'est plus ouvert, mais il y a encore de l'homophobie dans le sport. Je veux célébrer ces athlètes qui ont le guts d'être eux-mêmes et de montrer le chemin à ceux qui s'en viennent. » Dans les années 1980, le spécialiste du 110 mètres haies ne pouvait pas être lui-même au quotidien. Il dit encore, « J'avais peur de parler de mon orientation sexuelle, car j'entendais souvent des propos péjoratifs d'autres athlètes et des entraîneurs. Ils ne réalisaient pas l'impact négatif qu'ils pouvaient avoir. » Bien qu'il ait fait sa place dans l'équipe canadienne à 3 reprises, il est persuadé qu'il aurait été meilleur dans un contexte ouvert et inclusif. En 1992, après avoir participé à la sélection olympique, il a accroché ses souliers et rencontré son amoureux. 5 ans plus tard, il est revenu à la compétition, cette fois en s'affirmant ouvertement gay. Il dit « J'ai l'impression de ne plus avoir la pression de devoir performer pour prouver aux autres et à moi-même que j'avais de la valeur, même si je suis différent de la majorité. J'ai réalisé des super performances à 33 ans alors que je m'entraînais moins. » Quand il a proposé une bourse pour soutenir les athlètes LGBTQ+, le Vert et Or l'a appuyé sans retenue. Nous avons une volonté claire de bâtir un environnement sportif où les performances ne sont jamais compromises par la peur du jugement, où chacun peut s'entraîner, évoluer et s'exprimer en toute liberté, selon Jean-Benoît Jubainville, qui est le directeur du sport d'excellence chez Le Vert et Or. C'est d'ailleurs un environnement très ouvert qui a permis à Maude Tanguay de s'épanouir. À mes débuts, en rugby, dans mon club en Beauce, j'étais le bébé à 18 ans. J'étais entouré de filles dans la vingtaine qui étaient pleinement assumées. En les voyant, ça m'a permis de me découvrir en tant que personne et d'assumer mon orientation sexuelle. Aujourd'hui, âgée de 22 ans, elle juge que le rugby est très inclusif. Que tu sois gay, hétéro ou trans, tout le monde est bienvenu. Quand j'étais à ma première année avec mon équipe en Beauce, il y avait une personne dans mon équipe féminine qui transitionnait et c'était correct. Je sais que je suis chanceuse et que tout le monde ne vit pas ça. Mais Sanson a choisi de lui offrir 2 000 $ pour son leadership. Pourtant, l'athlète dit ne pas faire beaucoup de bruit dans son équipe. Elle dit « Je suis discrète, mais authentique et humaine. C'est important pour moi que tout le monde se sente bien. Quand il y a des situations plus difficiles, je suis là pour mes coéquipières et je n'hésite pas à prendre la parole. » Le philanthrope souhaite qu'un jour la bourse ne soit plus nécessaire. Il dit « J'espère qu'on n'aura plus besoin de célébrer les athlètes LGBTQ+, parce qu'ils feront partie de la normalité. Mais on est tellement loin de ça. Dans les sports d'équipe universitaire masculin, le hockey, le football, le soccer, personne n'est ouvertement gay. Ce n'est pas qu'il n'existe pas, c'est qu'il ne se sent pas à l'aise d'en parler. Alors que certaines voix affirment qu'on devrait se concentrer sur les performances athlétiques et n'accorder aucune importance à l'orientation sexuelle ou à l'identité de genre des athlètes, Jean-Benoît Jubainville préfère se baser sur des réalités concrètes. Il dit « Nous savons que ce n'est pas facile pour toutes les personnes étudiantes athlètes de vivre ouvertement leur diversité sexuelle et nous espérons célébrer une personne qui le fait et qui, souvent sans le savoir, devient un modèle pour les autres. Nous souhaitons que cette bourse ne soit pas éternelle dans un monde sportif où l'inclusion deviendra la normalité.
Ouais. »
Donc, c'était une reconnaissance qui était offerte par l'équipe du Vert et Or de l'Université de Sherbrooke envers les athlètes LGBTQ+, de son université.
Silence dans la salle.
silence dans la salle. C'est, on est à l'époque du mondial présentement. Alors, à Laval, le samedi dernier, il y a eu des matchs de soccer silencieux. C'est un article de Ariane Lacourcière dans la presse du 12 juin. L'Association régionale de soccer de Laval a organisé des matchs silencieux où les parents et entraîneurs devaient s'abstenir d'applaudir ou de célébrer les actions du jeu. Le match silencieux vise à offrir aux jeunes une expérience de jeu où ils peuvent prendre leurs propres décisions, communiquer entre eux et développer leur autonomie dans un environnement calme et positif. En plus de ne pouvoir applaudir, parents et entraîneurs ne devaient pas donner de consignes ou, en guillemets, coacher les joueurs pendant le match. Les entraîneurs pouvaient transmettre leurs consignes et rétroactions uniquement avant le match et à la mi-temps. Pour s'assurer du respect des consignes, il y avait un superviseur de match qui était présent durant la partie. Le match silencieux n'a pas pour objectif de retirer le plaisir du sport, mais plutôt de permettre aux jeunes de prendre confiance en eux et de développer leur autonomie et de profiter pleinement du jeu. Afin de permettre de mieux comprendre le concept, l'Association récréative des sports de Laval...
L'Association régionale de soccer de Laval.
Régionale. J'ai inventé l'acronyme quand je l'ai vu. Fournit un lien qui dirige vers une vidéo de l'Association de soccer d'Angleterre qui a adopté le concept de match silencieux en 2022. En mars, plus d'un million de jeunes joueurs de soccer ont pris part au Silent Support Weekend en Angleterre. Je traduis en la fin de semaine de soutien silencieux. Les règles du jeu y semblent toutefois légèrement différentes. Les spectateurs peuvent applaudir durant les parties, mais ne peuvent encourager les joueurs ou leur crier des consignes. L'objectif du Silent Support Weekend est de réduire la pression sur les jeunes joueurs de soccer, de leur offrir la chance de trouver leur propre voie, VOX, d'améliorer leur communication sur le terrain, de développer leur propre jeu et encore plus important, d'avoir du plaisir. Le directeur général de l'organisme SportAide, Sylvain Croteau, salue l'initiative des matchs silencieux. Il rappelle que 2 jeunes sur 3 quittent le sport avant d'entrer à l'école secondaire au Québec et que l'une des principales raisons invoquées est la pression subie par les parents, les entraîneurs ou les pères. M. Croteau souligne qu'on parle de plus en plus des dérapages et de la trop grande intensité de certains parents dans le sport au Québec. Mais cet enjeu touche plusieurs pays à travers le monde et il faut continuer la sensibilisation à ce sujet pour rappeler que le sport, surtout avec les enfants, il faut que ça se passe dans le bonheur. Alors, une belle initiative encore là pour arriver à ce résultat.
Vraiment, j'aimerais entendre des commentaires hein, des enfants, ceux qui sont les joueurs finalement, et les parents aussi qui doivent se taire. Ça doit être très particulier comme atmosphère.
Oui, sûrement. Si j'en trouve, je vais me faire un plaisir de vous les traiter.
Merci Yvan, à tout de suite.
Vous écoutez Au quotidien avec Hélène Denis.
La chanson « Encore » de Caroline Savoie.
Et c'est la chronique de Monique Quirois qui nous parle aujourd'hui des allergies. Pourquoi les allergies explosent, Monique?
Oui, alors, comme je le disais en présentation, c'est une véritable pandémie. On pense aux éternuements, au nez qui coule, aux démangeaisons, à l'asthme et aux autres yeux larmoyants. Aujourd'hui, Hélène, 25 à 30 des Français et des Françaises souffrent d'allergies. Et du côté du Canada, c'est un petit peu moins. En fait, c'est entre 20 et 25 des Canadiens qui ont des allergies saisonnières ou encore des allergies alimentaires. Alors, comment on en est arrivé là? Ben, on a posé, c'est la journaliste Éloise Rambert qui a posé la question aux experts.
Éloise ou Héloïse?
Éloise.
Ah, Éloise, OK.
Oui.
Comme Éloise. Le cirque Éloise.
Oui, c'est ça, exactement. Alors, il semble que ce n'est que le début. L'OMS, c'est-à-dire l'Organisation mondiale de la santé, estime qu'en 2050, la moitié de la population mondiale sera allergique. Il y a 100 ans, il s'agissait seulement de 1 à 2 % de la population. À partir du milieu du 20e siècle, il semblerait que c'est là que tout s'est emballé. La peau, le nez, les yeux, le tube digestif, aujourd'hui, tous les organes sont touchés. Le début de la forte augmentation de l'asthme, de la dermatite atopique et de la rhinite allergique remonte aux années 1960. Et une seconde vague, marquée par une hausse des allergies alimentaires et des hypersensibilités médicamenteuses, a débuté après les années 2000. Globalement, on comprend ce qui se passe. Les maladies allergiques sont causées par un dérèglement du système immunitaire qui correspond à une absence ou à une perte de tolérance vis-à-vis de substances a priori inoffensives, les allergènes. Ce système immunitaire les reconnaît alors comme étrangères et pathogènes. Pourquoi ce dérèglement touche-t-il tant de gens de plus en plus? Bon, comme on le disait en introduction, c'est toute la question. De nombreuses théories ont été proposées. Une en particulier fait son chemin depuis les années 1980. La théorie dite de l'hygiène. La progression de ces affections serait la conséquence de notre tendance à nettoyer nos intérieurs avec une kyrielle de produits d'entretien pour la maison et le linge, riches en détergents et autres enzymes gloutons qui lavent plus blanc que blanc.
Des enzymes gloutons.
Oui, c'est joli. Oh, oui. C'est entre parenthèses, c'est entre guillemets. Oui. Mais c'est une jolie expression.
Image, oui, oui.
Et de manière plus générale, de notre vie dans un environnement nettement plus aseptisé. Notre système immunitaire n'aurait pas eu le temps de s'adapter. Lorsque les infections ont commencé à se raréfier, grâce également aux antibiotiques et aux vaccins, le système immunitaire s'est tourné vers d'autres molécules de notre environnement plus anodines. Dès 1989, un chercheur anglais, David P. Strachan, montrait que le nombre de rhinites allergiques était moins important dans les familles nombreuses où les infections sont plus fréquentes. Puis, au fur et à mesure, les données scientifiques se sont accumulées. Au milieu des années 1990, une équipe de scientifiques de l'Université de Munich a constaté que les allergies étaient plus courantes en ex-Allemagne de l'Ouest qu'en ex-Allemagne de l'Est, où les intérieurs et un mode de vie moins occidentalisé favorisaient le contact des enfants avec infections et allergènes. En 2007, ce sont des chercheurs français qui ont ensuite mis en évidence le rôle protecteur de la vie à la campagne et l'exposition aux animaux domestiques dans la petite enfance au regard de l'allergie chez l'adulte. Énigme scientifique résolue? On est loin de là. Des pièces du casse-tête manquent encore. Plusieurs limites discutées ces dernières décennies suggèrent que cette théorie n'explique pas entièrement le phénomène. Par exemple, l'assainissement de l'eau a été mis en place dans de nombreuses villes occidentales dès les années 1920, soit 40 ans avant le boom des allergies. Par ailleurs, on note que l'asthme allergique continue d'augmenter dans certaines villes d'Asie et d'Afrique ou les niveaux d'hygiène sont faibles. Autre élément pointé par les scientifiques, utiliser des probiotiques pour exposer le corps volontairement aux bactéries afin de sensibiliser le système immunitaire, s'est révélé inefficace. Et pourtant, ça paraissait une bonne idée, une très bonne idée. Aujourd'hui, les chercheurs élargissent leurs perspectives. Tellement de changements sont intervenus dans nos modes de vie ces dernières décennies parallèlement aux questions d'hygiène. Nous sommes exposés quotidiennement à un nombre énorme de nouveaux polluants toxiques et additifs, que ce soit dans l'air que nous respirons, peut-être dans l'eau de pluie aussi, dont on parlait tout à l'heure, dans notre alimentation, dans les produits de ménage ou nettoyants pour le corps, qui renferment détergents et tensioactifs. Une méta-analyse parue en 2020, portant sur 22 inventaires chimiques dans 19 pays, a ainsi révélé que plus de 350 000 nouvelles substances ont été introduites dans la vie humaine depuis les années 1960. Ouf, c'est un nombre effarant, n'est-ce pas?
Ça en fait des enzymes gloutons?
Ça en fait, oui. Et depuis le milieu des années... En fait, excusez-moi, sans, on n'a pas mesuré depuis les années 60, en fait, leurs effets sur la santé, ça n'a pas fait d'analyse approfondie. Et depuis le milieu des années 2010, une piste se dessine très nettement, celle de l'action délétère de ces produits sur nos barrières épithéliales. Je vous donnerai la définition juste après. Merci. Qui est censé protéger notre peau et nos muqueuses de l'extérieur et faire le tri entre les molécules autorisées à entrer dans notre organisme et celles qui doivent rester à la porte. Nos épithéliaces sont normalement des murs infranchissables quand cela est nécessaire, mais ils deviennent trop poreux, que ce soit au niveau de la peau, des poumons et des intestins. Alors, vous le devinez à la lecture de ces dernières lignes, c'est un ensemble de tissus qui recouvrent les surfaces externes de notre corps et qui tapissent aussi les cavités internes.
Oui, c'est un rôle de protection.
Exactement, Hélène. Une belle couche, là, mais qui devient, comme on le dit, poreuse. Plus poreuse. Et à ce moment-là, on absorbe plus toutes ces matières nouvelles. On n'a pas mentionné les vêtements, mais c'est la même chose. Hein. Tous les produits que l'on... Tous les vêtements que l'on produit avec l'élastane, etc., là, les vêtements de sport, c'est toutes des matières tellement... en évolution et nouvelles.
Sont pas bonnes pour nos épithéliaces.
Exactement. Alors, au cours des dernières années, la liste des principales substances capables de rompre les barrières de la peau s'est précisée. On parle de détergents, de produits de nettoyage, d'agents de rinçage pour la vaisselle, le dentifrice, dans lequel il y aurait un agent moussant, l'auryl sulfate de sodium. Il y a aussi les polluants atmosphériques, micro- et nanoplastiques, additifs alimentaires, et comme on le disait aussi, les tissus. Sous leur effet, de nombreuses molécules nouvellement rencontrées sont reconnues comme allergènes. Il est même possible de développer des allergies à des substances que notre corps connaît déjà pour un motif que l'on ne comprend pas. Ma sœur est devenue soudainement allergique au céleri, par exemple.
Ouais, c'est bizarre.
C'est vraiment bizarre, mais c'est problématique, surtout au restaurant, parce qu'il y a du céleri dans tout.
Allergique de façon très, très sévère, là?
Ah oui. Ah oui, oui, totalement, oui. Alors, mais ce n'est toujours pas la fin de l'histoire. Depuis une dizaine d'années, nous voyons également un boom des publications montrant que les systèmes nerveux et immunitaires sont interconnectés et dialoguent en permanence. Donc, si on se focalise sur le volet immunologique sans considérer le système nerveux, on ne peut pas tout comprendre du phénomène allergique et de sa progression. Donc, les études, les recherches doivent se poursuivre en considérant ces deux volets. Ben, ça ne nous donne pas de solution à ceux qui souffrent de ces allergies qui sont vraiment, embêtantes.
C'est le moins qu'on puisse dire.
Vincent Vallière et sa chanson « Sarah ».
Et on continue avec Monique Kirois qui vend des lauriers. Cette fois, c'est le segment des brèves. Montougo.ca donne des suggestions, des façons de profiter de l'extérieur cet été, Yvan.
Oui, c'est un article tout récent du 9 juin. Je vais vous en proposer quelques-uns de ces moments-là. Je commence par se rafraîchir dans la piscine. Alors, qu'on aime nager, faire des exercices d'aquaforme, jouer au volleyball aquatique ou se laisser flotter en contemplant le ciel, l'eau apaise et nous aide à nous recentrer sur l'instant présent. On remarque que c'est fascinant de constater qu'on peut passer des heures dans une piscine sans jamais s'ennuyer. Dire qu'on a peine à garder notre concentration 15 minutes durant une réunion en ligne. Ça, je peux en témoigner, par exemple. Et la facilité qu'on a à retrouver notre âme d'enfant dès qu'on met un orteil dans l'eau. La gravité semble moins grande et nos préoccupations aussi. Et là, on ajoute une petite astuce que je trouve intéressante puis qu'on peut même utiliser ailleurs que dans l'eau. On peut créer un rituel de respiration aquatique. En flottant sur le dos, on inspire pendant 4 secondes, on retient 2 secondes, puis on expire lentement pendant 6 secondes. On pratique cet exercice pendant 5 minutes et on approfondit de cette façon-là la relaxation. Alors, moi, j'ai pas de piscine près de chez moi, mais je risque de vouloir l'utiliser dans mon lit, peut-être, ce soir.
Ah, pourquoi pas, pour approfondir votre relaxation.
Ben oui.
Monique, la peur, non, c'est une question qui concerne les ratons laveurs, là. Drôle de question. Est-ce que les ratons laveurs aiment résoudre des énigmes?
C'est une drôle de question, mais ouais. On vit avec les ratons laveurs, hein, à Montréal, en tout cas.
Pas juste assez... à Montréal, là, un peu partout, puis on a peur d'eux parce qu'ils ont la rage, là. Il y en a beaucoup qui ont la rage.
Exactement, mais ils sont assez astucieux pour réussir à vider nos poubelles, hein.
Oh. Oui.
Alors oui, ils aiment résoudre des énigmes, Hélène. Alors voici l'expérience. 16 ratons laveurs l'ont prouvé lors d'une expérience de laboratoire. L'énigme consiste à ouvrir une boîte contenant une gourmandise, en fait une guimauve parce qu'il semble la préférer. Alors cette boîte, les faces sont en plexiglas, sont bardées de loquets, de fenêtres, de poignées et même d'un cadenas déverrouillé. Il y a 9 façons de l'ouvrir avec 3 niveaux de difficulté. Résultat? 14 ratons laveurs sur nos 16, 2 ont échoué, semble-t-il, mais on ne sait pas à quel niveau, ont résolu tous les niveaux.
Ah,
surtout,
oui.
Ils ont continué à explorer la boîte une fois la récompense dévorée. Une curiosité désintéressée, certes énergivore, mais profitable en prévision de défis futurs, interprètent les chercheuses. Et qui peut-être pourrait expliquer pourquoi ils prospèrent dans les mosaïques d'énigmes que sont nos villes. Alors voilà, vous en savez plus sur les ratons laveurs.
Le raton laveur énigmatique.
Oui.
Des façons de profiter de l'extérieur cet été, vous en avez une autre, cher
Yvan. Oui. Improviser une soirée de jeu en famille, à l'extérieur, évidemment. L'expérience des jeux se transforme à l'extérieur. Le Scrabble est soudainement plus amusant quand les lettres menacent de s'envoler à chaque coup de vent. Et tout le monde a une tante ou un cousin qui révèle son esprit de compétition dès qu'une partie de cartes commence. Cette même personne nous assure à table que l'important, c'est de participer.
Ben oui.
Mais elle mémorise secrètement toutes les cartes jouées et élabore des stratégies dignes d'un championnat du monde d'échecs pour gagner au Uno.
On ne connaît pas ce jeu-là, le Uno.
Le Uno, c'est un petit jeu qui se joue souvent avec les enfants. On peut faire des paires et des choses comme ça.
C'est agréable? C'est un jeu le fun?
Oui. Oui, c'est intéressant. Ces séances de jeu stimulent notre cerveau et nous aident à oublier nos soucis. Elles favorisent la communication, renforcent les liens familiaux et nous rappellent l'importance de s'amuser, peu importe notre âge. Alors, ce qui est bon à savoir, c'est choisir des jeux adaptés à l'extérieur. Donc, prendre des cartes qui sont un peu plus lourdes, des pièces moins susceptibles de s'envoler et prévoir aussi un éclairage adéquat pour les soirées qui se prolongent.
Oui. Aimez-vous jouer, vous, Yvan, l'été ou n'importe quand?
Oui. Moi, en général, j'aime jouer. Effectivement. Mais je ne suis pas dans une famille très joueuse. Ça fait que ça m'arrive moins souvent que
Ah, oui. Oui, ça, c'est, ça peut être décevant quand on a envie de jouer puis il n'y a personne qui embarque dans notre projet.
Oui.
La peur soude-t-elle, Monique?
Oui,
qu'est-ce que vous voulez dire?
On aime aller se faire peur avec des copains, des copines dans, par exemple, des trains fantômes, des maisons hantées. Mais il y a une équipe de l'Université de Floride qui a entrepris d'y répondre grâce à son propre parc d'attractions horrifiques qui lui sert de laboratoire expérimental. Alors, au cours de 3 fêtes d'Halloween, en 2022, 2023 et 2024, ils ont pu interroger plus de 3800 visiteurs avant et après leur expérience. Premièrement, et sans beaucoup de surprise, les psychologues confirment que plus la peur ressentie est forte et plus la proximité physique avec les autres participants est grande, plus ça renforce l'attachement l'un à l'autre. Mais ça ne suffit pas tout à fait. Pour se sentir vraiment soudé, il faut aussi avoir pu parler ensemble de cette expérience après coup, nommer et partager les émotions vécues et même en rire. Alors, que cela ne tienne, vaut mieux aller vivre ces expériences en groupe que seul, si je comprends bien.
Avoir peur à deux, à trois ou en groupe plutôt qu'en solo. Yvan, c'est à vous.
Ralentir pour vraiment relaxer. Alors, parfois, la meilleure façon de profiter de l'extérieur est simplement de ne rien faire. S'installer confortablement avec un bon livre, dessiner, colorier, observer les oiseaux ou les étoiles, faire une sieste ou même méditer en plein air.
Finalement, rien faire, ça veut rien dire. Ça veut pas dire ce que ça dit.
Oui, effectivement, en lisant comme ça, je réalise que ça veut dire quand même faire beaucoup d'affaires.
Moi, quand je lis un livre, je fais quelque chose.
Oui, mais...
Ben oui, on comprend l'idée quand même, Yvan.
On comprend le concept, oui.
Oui.
Autant d'activités qui nous permettent de ralentir et de renouer avec nous-mêmes.
Tout à fait.
Se détendre dehors n'est pas du temps perdu. Bien au contraire, c'est un investissement dans notre santé mentale. Quand on prend le temps de relaxer à l'extérieur, on active tous nos sens. On sent les parfums de l'été, on écoute les oiseaux, on sent la brise sur notre peau et on observe le jeu des ombres et des lumières. Cette stimulation sensorielle nous ancre dans le moment présent. C'est une forme naturelle de méditation accessible à tout le monde. Alors, on peut améliorer un coin détente dans l'espace extérieur. On ajoute un hamac, une chaise confortable ou un tapis de yoga pour nous inciter à prendre ces moments de pause.
Ça donne le goût de relaxer, de prendre le temps.
Hein?
Et c'est drôle parce que Mathieu me disait, il a vu le documentaire dont il va nous parler autour de 10h30, Le Chant des forêts de Vincent Munier. Et c'est comment... Le même sujet, là, on parle de prendre le temps d'observer et de profiter de ce qui nous entoure, surtout quand on est dans la nature, ça, c'est tellement bienfaisant. Monique, qui vit dans la nature, capsule linguistique pour nous tous et toutes, quel rapport y a-t-il entre le savon et les téléromans? Bien oui, hein, les téléromans savon,
oui.
Ça a existé, je ne sais pas si ça existe encore, oui. On parle en même temps, là, c'est pas très agréable.
Oui, excusez-moi, j'ai une petite nouvelle fort intéressante.
Allez-y.
Avant. Alors, le petit Larousse illustré et le petit Robert ont ajouté dans leur édition de 2027 le néologisme instavidéaste. Alors, ça désigne une personne diffusant en direct du contenu multimédia sur Internet. Mais ce qui est intéressant, c'est que le mot instavidéaste a été créé en 2019 par 5 élèves de deuxième secondaire de l'école Jésus-Marie de Beauceville.
Ah, wow!
Ouais, c'est à l'occasion du tout premier concours de créativité lexicale de l'Office québécois de la langue française. Il semblerait que la proposition néologique, en plus d'avoir charmé le jury, est désormais utilisée par des locuteurs et locutrices, ça fait partout dans la francophonie. Alors, ils sont parmi ces deux dictionnaires les premiers hors Québec à intégrer ce mot qui a fait vraiment du chemin depuis l'école secondaire de Beauceville jusque dans ces illustres dictionnaires.
Instavidéaste, bravo à tous ces élèves qui ont inventé ce mot qui est maintenant dans le dictionnaire. Et quel rapport y a-t-il entre le savon et les téléromans? Je pense qu'on va vous garder ça pour une autre fois, Monique.
Pas de problème.
Oui, comme un téléroman à suivre.
À suivre, c'est ça.
Parce que là, il reste 30 secondes, on n'a pas beaucoup de temps. Mais je vous souhaite une très belle journée, Monique, malgré la pluie, malgré que la pluie, quelquefois, ça nous incite à nous poser.
Exactement. Et je vous rappellerai que mon chéri a fait une exposition de photos sur le champ de l'eau. Alors, il y a le champ des forêts, mais il y a aussi le champ de l'eau.
Oui. Merci, Monique. Merci, Yvan. À la semaine prochaine.
Au revoir.
À la semaine prochaine. Bye.
Vous écoutez Au quotidien avec Hélène Denis.
Vos regards se sont rencontrés au fond d'un miroir.
dans ce bar où j'allais souvent inventer des nuits de hasard. Nos paroles se sont limitées à ces banalités. On se dit quand il est trop tard et nos corps se parlent dans le coin. Pour une histoire.
C'est vraiment bon. Moi, j'aime ça, en tout cas. Version remixée pour une histoire d'un soir, Marie-Denise Pelletier. Alors, très cher Mathieu Tessier, vous avez visionné pour nous, Le Chant des forêts, pour les auditeurs et auditrices, un film qui est réalisé par Vincent Munier. C'est un documentaire et on va entendre la bande-annonce et ensuite de ça, ben, vous allez nous en parler, Mathieu.
C'est quoi ton meilleur souvenir?
C'est comme j'ai vu pour la première fois le grand étrat. Ça, ça a été un grand moment, ouais. Cet oiseau vivait dans les Vosges depuis plus de 10 000 ans. En 50 ans, j'assiste à sa disparition.
Et toi, papa, quand est-ce que tu as passé ta première nuit dehors?
À ton âge, exactement.
Et après ça, j'ai accompagné papy tout le temps. Une vie d'affût.
Ça sentit. Chut. Dirige par là. Là. Les arbres aussi écoutent le chant des oiseaux, tu vois. Le monde sauvage, c'est un monde invisible, mais qui laisse des traces. Ça bouge dans le fond.
Tu veux te réveiller dans la nuit pour écouter les chouettes?
Ah non, moi je veux dormir là.
Faut qu'on aille dans le Grand Nord.
Et tu penses qu'on va revoir des tétras?
On a des chances de les entendre, mais de les voir, c'est moins sûr.
Encore des histoires.
C'était la bande-annonce du film Le Chant des forêts que Mathieu a vu. On est où, Mathieu? Qu'est-ce que ça raconte?
Ça se passe dans les Vosges, qui est une région à l'est de la France.
Ouais.
Une région très boisée.
On est en forêt, donc.
On est en forêt, voilà. C'est un documentaire d'une durée d'environ 1h30, 93 minutes, et qui sort dans les salles québécoises demain, le 19 juin 2026. Après le succès de son précédent film, Vincent Munier nous amène cette fois au cœur des forêts des Vosges, qui est une région dans l'est de la France. C'est là qu'il a grandi. C'est là qu'il a appris à observer la nature grâce à son père, Michel Munier, qui est un naturaliste passionné, un poète, qu'on voit durant le film.
On voit le père et on voit aussi le fils?
Oui, parce que c'est aujourd'hui à son tour de transmettre cet héritage à son fils Simon. Le documentaire réunit donc ces trois générations autour d'une même fascination, celle pour le monde sauvage. C'est bizarre qu'Yvan en parlait aujourd'hui, mais il nous invite justement à ralentir, à écouter et à observer. Et donc, au fil des saisons...
OK, ça se passe sur plusieurs saisons.
Oui, on découvre différents animaux, des cerfs, des lynx et de nombreux oiseaux rares. Et parmi les rencontres les plus marquantes figure le grand tétra, qui est comme une grosse perdrix ou un gros dindon.
Ça existe pour vrai.
Oui, ça existe pour vrai. C'est par contre un animal quasiment devenu mythique, tant il est difficile à apercevoir dans son milieu naturel.
Comme un kangourou à Boucherville.
Ben là, c'est plus ce qui est en voie d'extinction en France, en tout cas, du moins dans les forêts des Vosges. Le chant des forêts est bien plus, en fait, qu'un simple documentaire animalier. C'est aussi une réflexion sur la transmission, sur la patience et sur notre relation avec la nature. Les dialogues sont peu nombreux. Et c'est surtout par les images et par le son que l'histoire se fait raconter. C'est pour la qualité exceptionnelle des images qui nous permet d'apprécier chaque détail de la forêt, mais aussi pour l'expressionnisme de la réalisation de Vincent Munier, que je vous invite à aller voir le film dans des salles de cinéma.
Ah, sur grand écran.
Ouais. Moi, je l'ai vu chez moi avec un projecteur et j'ai commencé le visionnement avec un petit haut-parleur Bluetooth qui est très bon, mais... J'ai rapidement réalisé que le son était 60% du film, ou presque. Donc, je suis passé à de très bons casques d'écoute. Et c'est pour ça qu'en cinéma, déjà, la qualité de l'image est exceptionnelle.
On est
la
plus enveloppé.
Et le son ambiophonique permet de vraiment mieux vous...
Laisser transporter, happer.
Dans l'histoire, parce que tu as les chants des oiseaux, mais tu as aussi le bruit, le bruissement des feuilles, le souffle du vent et le cri des animaux deviennent comme une véritable expérience sensorielle.
Ah, la réalisation... Comme si on était en forêt.
Oui, exactement. C'est Olivier Guanard qui a réalisé, qui était l'ingénieur de son. Chapeau à lui. Parce que c'est une grande partie, parce que moi, étant un gars de son, j'étais très...
attentif à ça.
Très attentif à ça, oui.
Et en plus, vous me disiez, en dehors des ondes, après l'avoir vu, il y a des animaux qui sont pas apparus comme par magie. Là. Il y a eu... Vous parliez de patience ici. Oui. Ils ont dû être patients pour voir apparaître ces animaux-là.
Exactement. Là, la façon dont... En fait, quand on voit un film documentaire, on s'imagine... Si on n'est pas au courant de comment ça se passe, le tournage de documentaires tel que celui-là, on s'imagine que quelqu'un met une caméra et pouf, les animaux apparaissent.
Ouais, on n'est pas dans Walt Disney, là.
Je serais très curieux de poser la question de combien de temps ce film a pris. Parce que, comme il le dit dans la bande-annonce, le tétra est de plus en plus rare en France. Alors, il décide d'aller au nord, dans un pays scandinave. Il voit des traces au sol. L'enfant demande « Est-ce que tu penses qu'on va en voir? » On va peut-être l'entendre, mais on n'est pas certain de le voir.
Alors, il y a comme une sorte de suspense, ouais. Un élément de suspense dans le film. Vous me disiez aussi qu'à un moment donné, vous êtes levé.
Ah, presque.
Que vous étiez comme ébahi parce que vous voyez, mais il faudrait peut-être pas le dire.
Non, je ne le dirai pas. C'est juste que... Ce moment-là arrive, en tout cas, je ne vous dirai pas exactement où, mais il y a certains éléments qui m'agaçaient un peu, je dois l'avouer, pendant le visionnement.
Quel genre d'éléments?
Je trouvais que les dialogues qui sont peu nombreux, parfois, il n'était pas nécessaire de les rajouter. Je pense même que ça a été rajouté en post-production, donc après le tournage, parce qu'ils doivent être le plus immobile possible et le plus silencieux possible. Et là, pour nous aider la narration... Je trouvais qu'à certains moments, le dialogue n'était pas nécessaire.
Oui, c'est un peu appuyé.
Il chuchote, exactement. Et juste après que j'ai eu cette réflexion-là, il y a un moment fantastique qui me marque et qui va rester dans ma mémoire cinématographique parce que c'est fantastique. J'étais très, très, très heureux qu'il m'ait écouté dans mon discours intérieur.
Dans votre désir de silence.
C'est présenté, j'ai noté que ça sort demain. Le 19 juin, si je ne me trompe pas.
Oui, oui.
À Montréal, il sera au Beaubien. Il sera au cinéma du musée et à la Cinémathèque. Pour ceux qui sont à Québec, il y a le CLAP. Et pour les gens de Sherbrooke, il sera aussi présenté à la maison du cinéma à Sherbrooke.
Donc, ça vaut la peine, ça vaut le détour.
La peine. Le Chant des forêts, un film de Vincent Munier.
Merci beaucoup, très cher.
Toi l'ami dont jamais je ne saurai le nom, toi mon frère inconnu, toi ma sœur anonyme, toi qui vis dans le noir, toi l'obscur compagnon, toi pour qui tant de fois j'ai retourné ma rime, toi qui es là ce soir, qui entends ma chanson, toi-même qui jamais ne l'entendra, peut-être. Qu'importe, mais toi, dont je ne sais rien, sinon que nous vivrons tous deux sans jamais nous connaître. La vie a ses façons de nous départager. J'aimerais bien parfois te raconter des choses, comme on le fait le soir, quand on est fatigué, quand on a sa journée, qu'on a le cœur morose. Nous pourrions simplement nous asseoir et jaser, en écoutant Félix ou Mozart ou Coltrane. Ma femme vers minuit t'offrirait du café. La veillée serait longue et courte la semaine. C'est à notre amitié que je chante aujourd'hui. C'est au vin que jamais nous ne boirons ensemble. Je chante à l'impossible et j'en pleure à demi, mais sache au moins ce soir combien je te ressemble. Mais sache au moins ce soir tout ce qui nous unit. Sache que nous faisons un peu le même ouvrage, et qu'à tout prendre au fond, malgré tout ce qu'on vit, pareille son non-joie, pareille son orage. Aimer que tombe ce soir nos murs et nos parois, et que pour un moment le cours du temps s'arrête. Ce soir c'est notre fête, allez tu viens chez moi, c'est le temps de fumer toutes nos cigarettes. Je veux te dire au moins que je marche avec toi, et que tu n'es pas seul malgré tant de silence. Que par-dessus les mers et les villes et les toits se rejoignent nos mains à force de l'espérance.
Sylvain Lelièvre et sa chanson « Toi, l'ami ».
Oui, Sylvain Lelièvre qui fait partie des chanteurs, des auteurs-compositeurs-interprètes qui sera interprété lors d'un concert dans le cadre des concerts du dimanche offerts par le CAMAC, le Centre musical CAMAC, qui propose 8 semaines de camp musical dans les Laurentides et une série de concerts dominicaux qui réunissent des artistes de grand talent. Et pour nous en parler, on reçoit avec plaisir, elle est au bout du fil, Guylaine Lemaire, directrice artistique de CAMAC. Bonjour, Madame Lemaire.
Bonjour.
Alors, parlez-nous d'abord de la mission de CAMAC. CAMAC, ça veut dire quoi exactement, premièrement?
Mais CAMAC, c'est un acronyme, donc C-A-M, Canadian Amateur Musicians, musiciens amateurs du Canada. Et l'acronyme reflète aussi le fait que CAMAC, c'est un camp qui est tout à fait bilingue. Donc, on travaille dans les deux langues constamment.
Oui.
Et donc, c'est ça, c'est un centre musical qui existe depuis 1953.
1953?
Oui, 1953, on s'en va vers notre 75e anniversaire en 2028. Et la mission n'a pas changé. CAMAC continue d'innover, ça, c'est certain. Mais la mission de réunir des musiciens amateurs pour faire de la musique dans une atmosphère conviviale, sans compétition, ça n'a pas changé. Ça demeure au cœur de tout ce qu'on fait. Et toujours, on enseigne à nos participants avec des musiciens professionnels. Donc, on évolue, mais on reste fidèle à la mission originale de 1953.
Qui peut participer au Centre musical CAMAC? Vous parlez de musiciens expérimentés, mais il y a aussi des musiciens amateurs. Est-ce qu'il faut avoir une certaine expérience? Comment ça fonctionne?
Oh, en fait, c'est un camp, c'est des sessions qu'on offre qui sont pour musiciens amateurs. Et quand on est amateur, ça veut dire qu'on peut commencer, on peut être débutant, on peut ne jamais avoir fait de musique, ou on peut être un amateur très, très avancé. On en a qui sont de très haut niveau. Donc, nous, on s'assure d'offrir des cours qui vont, des sessions qui vont convenir à tous.
Ah oui, pour tous les âges aussi?
Pour tous les âges, oui, on commence le programme des enfants commence à 4 ans et demi. Donc, il y a des semaines, j'ai eu des participants entre l'âge de 4 ans et demi et 98 ans.
Oui!
Ce qui est assez extraordinaire.
Je comprends, c'est assez extraordinaire. Oui. Alors, les camps commencent le 28 juillet, la semaine 1, du 28 oui. juin au 5 juillet. Non pas le 28 juillet, le 28 juin au 5 juillet, ça s'en vient très, très bientôt. Parlez-nous de certains camps, là, parce que là, on n'aura pas le temps de passer à travers les 8 semaines, mais donnez-nous quelques exemples, là.
Oui, donc il y a un horaire type à CAMAC ou des cours type qu'on retrouve à toutes les semaines, comme par exemple musique de chambre, musique chorale, percussion. Et à chaque semaine, on a un thème qui peut être un petit peu différent. À la semaine 1, par exemple, on a un intensif de violoncelle. Donc, on a beaucoup de violoncellistes qui vont venir cette semaine-là. Mais une chose qui est extraordinaire à CAMAC, c'est même si on vient avec le goût de faire quelque chose de précis, comme par exemple le violoncelle, on peut aussi dire, ben moi, j'aimerais ça essayer un cours de percussion, puis c'est la première fois que je vais faire ça. Donc, c'est sûr que de mon point de vue, c'est plus compliqué d'avoir énormément de professeurs et énormément de cours, mais je pense que c'est un atout majeur pour les participants qui peuvent venir et découvrir
oui.
Et, d'autres choses.
Guylaine Lemaire, est-ce qu'on peut s'inscrire à toutes les semaines, faire partie du camp musical là, de la semaine 1 à la semaine 8?
Si on le souhaite, on peut.
Oui.
Ça serait, je vous dirais, moi qui l'ai fait toutes, ça serait très tentant. On me pose des fois la question, quelle est ma semaine préférée? Je ne suis pas capable de choisir
entre
musique ancienne, jazz, Broadway, musique des fois plus classique, musique du monde. On a des gens qui viennent aussi pour composer leurs propres chansons. Donc, c'est vraiment très varié. Puis, c'est une des choses très uniques à CAMAC, c'est de pouvoir venir, si on le souhaite, en famille et qu'un parent ou un grand-parent ait son programme adulte et pendant que son enfant ou son petit-enfant a aussi son programme enfant. Donc, tout le monde apprend en même temps, puis ça, c'est assez unique.
Ah, tout est attirant dans les semaines que vous proposez. Une belle programmation, c'est riche et il y a, au-delà de la musique, CAMAC mise sur la nature parce que vous êtes tout près du lac McDonald's, si je ne m'abuse.
On est sur le lac McDonald's qui est absolument magnifique. Puis c'est certain, c'est l'été, donc on a un terrain de tennis, on a toutes les activités qu'on peut imaginer qui font les feux de camp, les jeux de soccer, baseball, on peut tout faire ça à CAMAC, la natation. Et on offre aussi, on sait que la nature est importante, le mieux-être est important aussi, donc on a des cours de yoga, de tai chi, plein de conscience. On va faire
à chaque semaine, ça,
cette année aussi.
Pardon?
On va faire même de l'hypnose.
Oh, de l'hypnose. Est-ce que vous avez invité Mesmer?
Non, peut-être, mais peut-être qu'on devrait. Oui, de l'hypnose avec de la harpe Et donc, ça, c'est à la semaine 4. Donc, oui, il y a toutes sortes de choses à Camac et on essaie de faire des liens. Donc, la musique, c'est toujours ce qui... on part toujours de la musique, mais on n'est pas restreint à ça. On a aussi des cours d'art visuel toutes les semaines.
Des ateliers d'écriture de chansons, un atelier d'enregistrement sonore. C'est vraiment, là, ça foisonne. Et on va aussi prendre le temps de parler de la programmation des concerts qui est très variée, du tango, musique du monde, en passant par le jazz, le chant. Donc, c'est en parallèle du camp musical. Là, vous présentez cette série qui s'appelle « Dimanche en musique ». Est-ce que vous pouvez nous en dire plus là-dessus?
Oui, donc cette série-là s'adresse à tous. Donc, on a souvent des participants de nos camps musicaux qui vont venir au concert, mais on a beaucoup de mélomanes qui vont décider qu'ils ont le goût de venir écouter de la belle musique dans un cycle magnifique, un beau dimanche matin. Les concerts sont toujours suivis d'un brunch. Et parfois, il y en a qui vont se baigner dans le lac après aussi.
Ah, oui.
Donc, ça fait vraiment un beau dimanche. La programmation reflète aussi la programmation de nos camps d'été. Donc, on essaie d'avoir de la musique très variée. Donc, ça peut aller de la musique ancienne au jazz, musique du monde. Vous avez parlé tantôt de musique de Sylvain Lelièvre. Donc, on a un quatuor vocal aussi pour Musaïque, là, pour terminer la série. Donc, et on commence avec du tango et du violoncelle, donc bandoneon et violoncelle. Donc, on essaie d'avoir une belle variété pour les gens qui veulent venir découvrir Camac et passer de beaux moments en musique.
C'est très, très tentant. Quand vous avez parlé de bandoneon et de violoncelle, ce sont les musiciens Denis Plante et Stéphane Tétrault qui proposent le spectacle intitulé Stradi va tango. Si on va voir plus d'informations sur votre camp musical d'été et aussi cette série de concerts, vous avez une adresse Internet, j'imagine? Camac.ca?
www.camac.ca. Et donc, vous pouvez voir toute l'information sur les camps d'été. Il y a aussi une belle page web pour tous les concerts du dimanche. Et si jamais il y a des questions, ça nous fait toujours plaisir de répondre si vous écrivez au centre musical ou vous appelez aussi.
Si je comprends bien, il reste de la place pour s'inscrire au camp et aussi pour obtenir des billets pour les concerts.
Oui, les billets pour les concerts, il n'y a pas de problème. Certaines semaines du camp musical, j'ai heureuse de le dire, sont remplies.
Oui, je comprends.
Donc, il s'agit de voir, par exemple, notre semaine 5, la semaine jazz, c'est complet depuis le mois de mars. Mais il nous reste des places dans d'autres semaines et selon les préférences de chacun, on peut vous aider, là, vous orienter vers la meilleure semaine pour vous. Mais il reste encore d'excellents programmes, de la place dans d'excellents programmes cet été.
Alors, même si le CAMAC existe depuis 1953, ça nous a fait plaisir de vous parler, Guylaine Lemaire. Vous nous avez fait découvrir cet endroit à plusieurs personnes, ce centre musical, j'en suis convaincue. Vous êtes la directrice artistique de CAMAC et on va se faire plaisir avec du Philippe Glass parce que le dimanche 26 juillet, il y aura Écho de paix, violoncelle et harpe et on entendra cette fois-là un concert mettant en vedette la musique d'Arvo Pärt, Hector Villa-Lobos et Philippe Glass. Ce sera un moment magique, j'en suis convaincue. Merci beaucoup, Guylaine Lemaire.
Merci à vous.
Bon été.
Bon été à vous.
La musique de Philippe Glass à l'antenne de Canal M. Jean-Philippe Arcan dans la presse plus qui nous parle des prénoms les plus populaires en 2025. Mathieu, je ne sais pas si vous y êtes.
Je pense
Hélène
qu'il y en a assez.
L'est pas non plus. Oui, c'est ça. Vous êtes née dans les années fin 70, c'est
oui,
ça?
Oui, 77. Et dans ma classe au primaire, on était 6, Mathieu.
6, Mathieu. Donc,
je pense qu'on a déjà donné.
À Canal M, il y en a un. Et tout un. Alors, quiconque ayant de jeunes enfants dans son entourage ne sera pas surpris d'apprendre qu'Emma et Noah ont encore une fois été les prénoms les plus populaires chez les nouveaux-nés du Québec l'année dernière. Selon le traditionnel palmarès annuel de retraite Québec, la province a accueilli 485 petites Emma et 618 petits Noah en 2025. C'est d'ailleurs la cinquième année de suite que Noah occupe le sommet du classement chez les garçons. Léo occupe le deuxième rang devant Liam, troisième. Arthur fait quant à lui un bond de la septième à la quatrième position, alors que Louis complète la liste des cinq prénoms masculins les plus populaires. Du côté des filles, Olivia et Charlotte se partagent la deuxième place. Alice hisse en troisième position devant Florence, tandis que Sophia fait son entrée dans le top 5. Et c'est Hélène qui vous dit à la prochaine. Merci d'avoir